le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 janvier. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, levée progressive des restrictions sanitaires les 12 et 16 février prochains, mais entrée en vigueur du pass vaccinal. Le gouvernement dévoile la sortie du tunnel Covid sans totalement desserrer les contraintes. On va voir ça, Marion, après les autres titres.
Parvenir à une candidature unie à gauche, car aujourd'hui la compétition n'est selon eux pas à la hauteur des attentes. Une centaine d'artistes demandent aux électeurs de voter à la primaire populaire. Appel porté entre autres par l'actrice Anna Mouglalis, la présidente de la série Baron Noir, vous l'entendrez. Dans le journal encore, les ratés de l'application Élise, censée aider à choisir son candidat préféré pour l'Élysée. Des milliers de flotteurs dans la Grande Bleue pour mesurer précisément son réchauffement. Et le défi fou du metteur en scène Thomas Ostermayer, monter le Richard III de Shakespeare avec un seul comédien.
Invité, rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45. C'est le débat écho avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Après le Covid, comment peut évoluer le monde du travail? C'est la question cette semaine. À 8h20, dialogue autour du plus grand mathématicien du XXe siècle, Alexandre Grothendieck, à l'occasion de la sortie de Récoltes et Semailles chez Gallimard. On en parlera avec deux mathématiciens précisément, Cédric Villani, Jean-Pierre Bourguignon. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Assouplir, mais pas tout de suite, alléger les contraintes tout en instaurant le pass vaccinal face à la Covid, toujours bien présente, exercice d'optimisme prudent hier soir pour le gouvernement. L'exécutif dessine un calendrier de levée des restrictions. Le pass vaccinal, lui, s'appliquera dès lundi, annonce le Premier ministre, si le Conseil constitutionnel valide la mesure. Aujourd'hui, cette preuve de vaccination remplacera pour les plus de 16 ans le pass sanitaire partout où il est exigé aujourd'hui, restaurant, cinéma, théâtre, TGV. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
7% des Français ne sont pas encore vaccinés, c'est en pensant à eux que le gouvernement a fixé les modalités d'obtention.
Et ceux qui débutent maintenant leur parcours vaccinal n'auront pas besoin d'attendre la deuxième ou la troisième injection. S'ils effectuent la première avant le 15 février, dans 3 semaines, ils pourront bénéficier d'un pass vaccinal valide immédiatement, à condition qu'ils fassent bien leur deuxième piqûre dans les 2 mois qui suivent. Et dans l'intervalle, ils devront, comme actuellement finalement, justifier d'un test négatif de moins de 24 heures, une sorte de sursis du pass sanitaire. C'est pour Jean Castex le moyen d'amener le plus grand nombre à se faire vacciner. Et le Premier ministre souligne que c'est un levier qui fonctionne, puisque depuis l'annonce du pass vaccinal, plus d'un million de Français ont franchi le pas.
Alors Faustine, pour le moment, la date officielle d'expiration du pass, c'est fin juillet, mais le Premier ministre l'assure, il pourra être suspendu avant.
Pour cela, tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire, détaille le Premier ministre.
Si la pression épidémique et surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement, si nos services de réanimation ne voyaient plus arriver de nouveaux malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux n'étaient plus obligés de déprogrammer des soins, alors nous serions amenés à lever le pass.
Pas question d'être plus précis, le gouvernement ne souhaite clairement pas s'engager sur des critères chiffrés comme celui de l'incidence ou de la tension hospitalière.
Le pass vaccinal en vigueur lundi aussi, les 12-17 ans auront accès au rappel vaccinal sans obligation. Les restrictions, elles, vont s'éteindre par paliers. À partir du 2 février, on pourra tomber le masque à l'extérieur, fini le télétravail obligatoire, fini aussi les jauges dans les stades et les lieux culturels. Le 16 février, consommer dans les stades, les cinémas, les transports redeviendra possible. Concerts debout et discothèques reprendront du service. C'est aussi le retour de la danse dans les bars et du verre au comptoir. Excellente nouvelle, salut Franck Delvaux, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Île-de-France.
Un soulagement, et puis on voit bien que dans tous les pays européens, de toute façon, je crois que c'est l'Angleterre, l'Italie, tout en train de se relâcher. Donc à un moment, il faut revenir à la vie. Pensons aussi aux bars, puisqu'il y a de nombreux bars ouverts tard. Moi, j'avais des adhérents qui me donnaient comme exemple qu'il n'y avait plus personne dans leur bar, parce que les gens devaient être assis, puis non, ils veulent être debout, ils veulent échanger, un peu danser par moment, voilà, c'est la vie, quoi. Souvenons-nous, quand on avait pu réouvrir l'année dernière les terrasses, moi j'étais dans Paris, j'ai beaucoup circulé dans Paris ce soir-là, bon, les terrasses étaient pleines, c'était la joie de vivre, ben, je pense que le 16, on aura on aura ce même effet.
Le président de l'UMI Île-de-France, joint par Philippe Lefebvre pour France Inter, des décisions fondées entre autres sur l'évolution de l'épidémie, des contaminations toujours élevées, plus de 425 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, mais le nombre de patients Covid en réanimation continue de baisser à 3 842 aujourd'hui. L'impact de la cinquième vague sur l'hôpital va se poursuivre durablement jusqu'à mi-mars, affirme le Conseil scientifique. Le point sur la situation épidémique s'est à retrouver sur notre site franceinter.fr. L'épidémie toujours virulente en Guadeloupe, tout comme les opposants à l'obligation vaccinale pour les soignants, auteurs de plusieurs manifestations et barrages non autorisés la nuit dernière. Un gendarme est à l'hôpital, blessé par balle au genou en marge de ce mouvement. Sa vie n'est pas en danger. Et puis chez American Airlines, on prend très au sérieux l'obligation du port du masque à bord des avions. Un appareil qui reliait Miami et Londres a fait demi-tour à mi-chemin hier. Une passagère refusait en effet de revêtir l'accessoire obligatoire. La police l'a finalement escortée hors de l'avion.
France Inter, il est 7h06. Les États-Unis et la Russie, Marion, tentent toujours de dénouer la crise ukrainienne.
Les chefs de la diplomatie russe et américaine se retrouvent à nouveau aujourd'hui à Genève, en Suisse, en cause toujours la présence de ces troupes russes à la frontière ukrainienne. Sergueï Lavrov espère des garanties sur le fait que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN. Anthony Blinken, lui, redoute une attaque militaire russe sur le pays, ce que Moscou dément. Le face-à-face entre les deux ministres devrait durer 2 heures. La politique en France, c'est cet appel d'une centaine d'artistes à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Sur le site des Un Rock, Juliette Binoche, Jean-Pierre Darroussin et d'autres encouragent les internautes à voter pour la primaire populaire, cette initiative qui vise à désigner un représentant de la gauche unie pour le scrutin d'avril prochain. Les électeurs n'ont plus que 2 jours pour s'inscrire, alors ces personnalités de la culture déploient toute leur persuasion pour les convaincre, quitte à jouer de leur personnage, comme Anna Mouglalis qui réenfile son costume d'Amélie Dorandeu, présidente dans la série Baron Noir.
Il est vital pour notre République de remettre de la démocratie et de la délibération là où aujourd'hui tout repose sur un homme ou une femme. Face à l'impuissance des différents candidats de l'écologie et de la gauche à se rassembler derrière une candidature commune, la primaire populaire a décidé d'apporter une réponse citoyenne en refusant la défaite annoncée. Nous ne pouvons plus remettre à demain les urgences d'aujourd'hui. La gauche et l'écologie sont les seules forces politiques capables de changer concrètement nos vies. Il n'est plus temps de se diviser, mais de se rassembler pour gagner.
Le vote de la primaire populaire aura lieu du 27 au 30 janvier prochain. Et pour choisir leur candidat préféré à l'élection présidentielle elle-même, il y avait jusqu'ici apparemment une solution miracle, l'application Élise, sorte de Tinder de la présidentielle, en tête des téléchargements dans sa catégorie depuis son lancement en janvier dernier. Un questionnaire sur les propositions des candidats et un algorithme pour éclairer votre choix. Sauf qu'Élise est sous le feu des critiques de la France Insoumise, entre autres. Victor Vasseur, plusieurs ratés et interrogations viennent entacher son succès.
Le week-end dernier, un spécialiste en cybersécurité a réussi à s'introduire dans l'application. Il a créé des propositions et même inscrit son nom quelques instants dans l'une d'entre elles. Élise était également accusée de mettre en avant certains candidats, comme Emmanuel Macron, en cas d'ex-aequo lors des résultats. Tout est corrigé, assurent ses créateurs. Mais qu'en est-il des données collectées ? Peuvent-elles être revendues, transmises à des partis politiques ? Il n'en a jamais été question, rétorque l'une des têtes pensantes de l'application, Grégoire Cascara.
On a toujours expliqué que ces données ne seraient jamais revendues à un parti politique, à une équipe de campagne, qu'elles n'avaient pour seul but de pouvoir éventuellement travailler avec des centres de recherche, des instituts de sondage. Ces inquiétudes persistant et les utilisateurs étant légitimement inquiets pour l'utilisation qu'on ferait de leurs données, on a décidé de supprimer toutes les données de l'application et autre décision forte, celle de partager l'application en open source qui permettra à n'importe quel développeur d'identifier éventuellement des corrections à y apporter et de nous aider à améliorer l'application au fur et à mesure des prochaines semaines.
Téléchargée plus d'un million de fois, l'application n'était plus répertoriée sur Google Play Store hier, après avoir reçu des centaines de signalements. Le problème est résolu, se réjouissent ses créateurs.
Allez, plus que 93 jours pour se décider.
Il est 7h09, une association d'aide aux sans-papiers jugée aujourd'hui, Marion, pour esclavage moderne.
Journée à rallonge et travail peu rémunéré, 50 32 plaignants accusent la structure Vie de Paris d'avoir profité de la vulnérabilité des migrants et sans-abri qu'elle était censée aider, ce en échange d'une domiciliation, notamment pour recevoir les courriers. Vie de Paris comparée cet après-midi devant le tribunal correctionnel, on vous raconte dans le journal de 7h30 sur France Inter. Les fruits et légumes pèsent de plus en plus lourd sur nos porte-monnaies. L'association Famille Rurale s'inquiète de l'inflation dans ce rayon. Plus 9% de hausse sur les étiquettes entre septembre 2019 et septembre 2021. Comme la planète, l'océan se réchauffe, on le sait, mais le phénomène est difficile à mesurer, notamment en profondeur. Les chercheurs déploient donc les grands moyens. Plus de 4000 flotteurs équipés d'antennes satellites seront installés dans la Grande Bleue d'ici 2030. C'est le programme One Argo, mis en place par une trentaine de pays, dont la France. Célia Kilray, il s'agit de mieux connaître l'océan, climatiseur naturel de la planète.
Aujourd'hui, il y a déjà 4000 flotteurs qui dérivent sur l'océan. Ce sont des tubes de plus d'un mètre de long, équipés d'une antenne. Ils plongent jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour mesurer la température de l'eau. Et quand ils remontent à la surface, ils envoient leurs données par satellite. Désormais, de nouveaux flotteurs vont être envoyés à 6000 mètres de profondeur dans les abysses. Un univers méconnu et pourtant crucial pour le climat. Virginie Thierry est chercheuse en océanographie physique à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Avec le réchauffement climatique, l'océan, il évolue très rapidement. On sait que 90% de la chaleur est stockée dans l'océan. Et en fait, on a quelques données qui nous suggèrent qu'environ 10% de cet excès de chaleur est stocké en dessous de 2000 mètres de profondeur. On a besoin de faire ces mesures-là pour pouvoir aussi voir à quel endroit la chaleur pénètre, comment elle se propage dans l'océan et quel impact ça peut avoir sur le fonctionnement aussi des écosystèmes. On sait également que l'océan profond va contribuer à l'augmentation du niveau de la mer. Et si on n'a pas les mesures, on ne pourra pas le quantifier.
Et en effet, si la température de l'eau augmente, l'océan se dilate et la mer monte, ces nouveaux flotteurs plongés dans les abysses pourront mesurer l'acidité de l'eau, la quantité d'oxygène, la chlorophylle ou le nitrate. Une façon de voir dans cette obscurité quels sont les effets du réchauffement à 6000 mètres sous les mers.
Coup de froid boursier pour la plateforme Netflix. Le diffuseur de Squid Games et Casa del Papel voit encore ralentir la croissance de ses abonnés. 221 800 000 seulement, c'est moins que ce qu'espérait le groupe californien. Il a perdu hier jusqu'à 20% à Wall Street. Lui a gagné son match et se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Open de tennis d'Australie. Gaël Monfils a dominé ce matin le Chilien Christian Garin 7-6, 6-1, 6-3. La France qui gagne en handball aussi à l'Euro. Les Bleus battent les Pays-Bas 34 à 24. Et puis quand un raté dû à la Covid se transforme en folle aventure théâtrale, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer devait venir au Théâtre des Gémeaux à Sceaux présenter son Richard III de Shakespeare, mais son théâtre allemand ne l'a pas laissé faire le voyage. Qu'à cela ne tienne, Thomas Ostermeyer entraîne son comédien principal dans une expérience inédite. Amélie Perrier a assisté aux répétitions.
L'idée un peu folle de Thomas Ostermeyer, monter Richard III avec un seul comédien, l'impressionnant Lars Eidinger, déjà salué dans ce rôle de roi aussi tordu physiquement que moralement. Ostermeyer se charge de tous les autres personnages, mais surtout, les deux complices s'interrompent parfois pour tester la mise en scène, l'ajuster. Les secrets de la recherche théâtrale sont dévoilés.
On voulait vraiment avoir une situation où le public peut suivre le développement d'une mise en scène et aussi partager les échecs d'une répétition, les soucis.
Et Thomas Ostermeyer va même plus loin en rendant ce travail interactif.
S'il y a des spectateurs dans la salle qui ont une meilleure idée que Lars et moi, pour une scène, pour une problématique, ils sont bienvenus d'interrompre, de proposer des choses.
Car la volonté première d'Ostermeyer, c'est de maintenir le lien avec le public malgré la pandémie, quitte à s'aventurer dans des espaces artistiques incertains.
Dans le meilleur des cas, c'est un happening artistique. Dans un mauvais cas, c'est juste un happening.
Improvisation autour de Richard III de Thomas Ostermeyer au Théâtre des Gémeaux à Sceaux. Ce soir, demain, dimanche, c'est en allemand, mais entièrement sous-titré. On n'a pas besoin de sous-titres, en revanche, pour le 7-9 d'Inter.
J'espère. Merci Marion Lourd. Secret d'info dans 3 minutes. Aujourd'hui, les coulisses du fiasco du contrat des sous-marins australiens.